Alors Michel, les emplois aidés dans l'Aude, on va se circonscrire à notre département.
Oui.
Y en a pas assez, il y en a trop, il y a quoi, on comprend plus là.
On comprend plus. Donc alors c'est vrai qu'il faut quand même rappeler, rafraîchir la mémoire de nos auditeurs parce que l'histoire médiatique, en tout cas l'information médiatique est de très courte durée. Tu le sais, Jean-Claude. La seconde même où l'information est donnée est quasiment oubliée. Donc c'était le 19 décembre 2007. Mesdames Sandrine Bossis, vice-présidente socialiste du conseil département de l'Aude, s'indignait par voie de presse, il y avait deux pages complètes dans l'Indépendant, de la baisse du nombre d'emplois aidés programmés par le gouvernement. Alors avec un seul message, complaisamment repris d'ailleurs par la presse, du style « si demain ça s'arrête, c'est une catastrophe ». C'est pas moi qui dis, c'est Mme Bossis.
Oui, rappelons.
Et Mme Sandrine d'en rajouter. Le gouvernement s'en prend aux plus fragiles. Donc, catastrophe, plus fragile. Donc, vraiment, la cata des catas, quoi. J'avais quand même rappelé le lendemain, et dans mon blog, même ici, je crois, à la radio, fait quelques jours c'était peut-être une diminution du nombre d'emplois aidés programmés par...
— incontestable, d'accord.
— programmé par la propre majorité de... socialiste, de Mme Bossis, et de Mme Sandrine.
Donc là, on était dans la posture politique un peu grosse.
Oui, d'autant que moi, je n'avais pas vu, ni entendu s'indigner, effectivement, de cette baisse programmée, financièrement par ses amis politiques.
On était dans la politique politicienne.
C'était sous coup d'émotion, soyons gentils, quoi. Mais le temps passe vite, quand même, puisque nous sommes en juin 2018.
Six mois plus tard.
Qu'est-ce qu'on apprend par la voix du préfet? Lui-même, qui sont de toxin, quoi. J'ai reçu une enveloppe de 981 emplois aidés, et il n'y a que 15%. 18% de signés. Emploi aidé du secteur non marchand, c'est-à-dire des collectivités locales, des associations liées aux collectivités locales, etc.
Les mêmes qui s'indignaient.
Embêté le préfet qui dit...
Un cinquième pourvu.
Alors c'est vrai que en 6 mois, ça peut paraître, compte tenu de l'inertie administrative, un peu court, quoi. Mais quand même, il n'y en a eu qu'un.
Le préfet bat le rappel, mais il dit,
je réunis le service de l'emploi, c'est-à-dire tous les services de l'État et aussi des collectivités publiques, élus compris, autour de la préfecture. Je rabote tout ça, y compris le centre de la fonction publique territoriale du département de l'Aude, présidé par M. Adivet. Tiens, je l'ai rencontré en ville l'autre jour, à Narbonne, de passage, et qui bientôt va passer la main. C'est l'occasion d'une prochaine chronique pour annoncer le futur président.
Monsieur Adivet.
Tout ce monde réuni, le préfet leur dit, écoutez, messieurs, mesdames, il faut y aller maintenant quand même, quoi. On peut pas dire à la fois qu'il n'y a pas assez de nombre, qu'il n'y a pas assez d'emplois aidés, et en même temps constater, comme je le fais, que il reste encore
82%. Il ne reste que 6 mois
pour pouvoir les consommer en quelque sorte. Alors il est vrai que ce sont des emplois aidés un peu différents, quoi, pour être tout à fait honnête. C'est des emplois aidés qui touchent les plus démunis, effectivement, de la population d'emploi aidé, premier point, et qui, deux, sont placés dans une logique d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que c'est pas les 43 idées anciennement des collectivités locales qui consistaient à recruter pendant 2 ans quelqu'un, puis il y a un effort d'accompagnement, de précision vers la recherche du travail, l'insertion, qui est exigé. Et là, effectivement, c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, on est dans une démarche autrement plus sérieuse, de mon point de vue.
Est la vocation première des emplois aidés.
Exactement.
Autant qu'on se souvienne, le RMI, etc.
C'est pas des emplois intérimaires pour des collectivités qui pallient, effectivement, quelques à bas prix et avec une couverture morale, à l'appui,
C'est pas l'emplâtre sur la jambe de bois.
Non, du tout. C'est sérieux. Ça doit être sérieux.
Et puis
là, il faut y aller, mesdames et messieurs, parce qu'on ne va pas continuer à dire qu'il n'y a pas d'emploi aidé, et en même temps, effectivement, ne rien faire pour cela en particulier, le plus démuni, faire en sorte qu'il le soit, effectivement, mis en place.
Donc, mesdames et messieurs, les maires de l'Aude, il en reste 80%.
À régler.
C'est-à-dire pas loin de 800.
Pas loin de 800 d'ici la fin de l'année. Allez, au boulot.
Au travail. Les fouilles de la découverte du moment, en quelque sorte, cette nécropole qui est découverte depuis quelques mois, d'ailleurs, à côté du musée de la Romanité, à Narbonne, et qui commence à créer un certain nombre de vagues parce que ça bouleverse des projets, forcément. D'après l'État, disons, le ministère de la Culture, c'est une découverte exceptionnelle.
L'équivalent, je ne sais plus quel site, italien, Pompéi, que sais-je. Donc c'est une découverte quasiment historique, en fait, tout à fait inattendu, évidemment, quoi, hein,
oui.
Et qui perturbe le calendrier, mais aussi l'économie générale du projet, parce que ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que tout retard, en fait, hein, dans cette programmation, hein, et un retard qui coûte, hein, parce qu'il faut financer les fouilles en question.
6 millions.
6 millions, hein, il faut les financer.
À ce jour.
Tout retard et donc tout financement.
Et 13 mois, plus 13 mois.
Contribue à l'augmentation des charges de la société qui aménage cette zone, à l'ENIS, qui est une filiale de l'agglo.
Société d'économie mixte.
Pour équilibrer ses comptes, l'ENIS est obligé de demander des subventions, en fait, à ses partenaires, aux collectivités locales d'une manière générale. Or, en l'espèce, le mandataire de ce chantier, ben, c'est pas la région, hein, c'est pas le Grand Narbonne, c'est la ville de Narbonne. À l'époque, Jacques Bascou était maire, c'était lui qui avait effectivement signé le mandat
pour la ZAC des berges de la Robine.
Donc Didier Mouly a été obligé de le reprendre, hein, il pouvait faire autrement, se retrouve lui en première ligne, malgré peut-être des intentions qui n'étaient pas forcément les siennes, quant à cet aménagement. Et il faut trouver une solution. Alors d'autant que, il y a à côté, il y a le Muréna quand même, hein.
Qui est censé valoriser
le patrimoine antique de Narbonne. Oui. Hein, et donc toutes les pierres, en fait, tombes, en fait, et autres. Qui
d'ailleurs, ça, petite remarque, ça s'appelle plus le Muréna.
Ah mince, c'est le Narbovien.
Alors là, il paraît tu vas te faire bouffer par les murènes, on faisait à l'époque romaine.
Tu viens de me faire remarquer, parce que ça prouve bien que ce nouveau concept de Narbovia qui était censé
être
la marque internationale,
qui allait
faire décoller, en fait, la communication, l'image de ce musée.
Il n'a pas encore pris la mayonnaise.
Il
n'y
a beaucoup à faire, puisque moi-même, tu vois, je suis encore au Muréna, qui, je crois que ce Muréna restera quand même longtemps dans l'esprit des Narbonniers, me semble-t-il. Donc on est dans cette situation un peu paradoxale, quoi, hein, c'est que il y a d'un côté des chercheurs et des passionnés de l'art antique qui souhaitent qu'effectivement on continue les fouilles, hein, les fouilles en question.
Et puis
les intérêts économiques, les différentes parties prenantes, collectivités locales, aménageurs et in fine, au bout de la chaîne, les promoteurs qui, du coup, vont voir forcément le prix au mètre carré enchérir. Donc ça va peser effectivement sur la commercialisation, peut-être, en fait, hein, et donc forcément sur le prix d'achat par les futurs propriétaires et donc locataires qui...
Voilà, donc on en est dans ce grand point d'interrogation.
Une dernière remarque, en fait, quand même, Jean-Claude. Pour les pouvoirs publics de manière générale, voilà. Mairie, fait Grand Narbonne et la mairie. Ils vont devoir arbitrer entre une somme importante à mobiliser pour financer ces fouilles et en parallèle, si je puis dire, le Clos de la Lombarde qui, depuis des lustres, demande à peu près 1,5 million, 1,8 million pour couvrir à peu près correctement les fouilles en question.
C'est un paradoxe, là encore, qui est assez cruel pour...
Cruel, effectivement, pour tout le monde.
D'autant plus que le Clos de la Lombarde est un site qui est sans doute tout aussi remarquable que cette nécropole, dans la mesure où il résume 4 ou 5 siècles d'occupation romaine.
Exactement. Et je précise que si ce Clos de la Lombarde avait d'entrée de jeu était inclus dans le périmètre du musée. Muréna, le problème était réglé sans aucun problème.
Les choses eussent été différentes.
Ben oui, quand même, 1,8 million rapporté à 50 millions d'euros, qu'est-ce que c'est, quoi,
voilà. Et l'on marque une deuxième pause, ceci nous servant de transition pour des questions futures à notre invité du jour, dont je rappelle qu'il s'agit de Nicolas Sainte-Cluc.